Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène sur Radio Campus 92.1 FM, Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. La petite émission critique des spectacles qui ont lieu à Bruxelles. J'ai à côté de moi la plupart de l'équipe, Nicolas, Sophie et Olivier. Bonjour, bonsoir.
Salut.
Bonsoir. Bonjour.
Alors, tous ces gens sont partis au théâtre cette semaine, on les voit tous les soirs dans les lieux. Ils sont partis voir Cible mouvante de von Mayenburg au Dexia Art Center, un jeune projet. Ils sont partis à l'Océan Nord voir Les Invisibles, d'après le livre de la journaliste française Florence Aubenas, Le Quai d'Oustriam, un duo de femmes mis en scène par Isabelle Pousseur. Plus abstrait, ils sont partis à Alaska, au Théâtre Varia, Patrick Masset. Et enfin, la comédie des illusions de Christine Delmotte au Théâtre des Martyrs. Et si on a le temps, on vous parlera évidemment des festivals qui ont lieu ce week-end à Bruxelles. Mais là, je me retourne vers Olivier. Olivier, toi, tu es parti à l'Océan Nord voir Les Invisibles.
Voilà, c'est la nouvelle création d'Isabelle Pousseur, toujours dans le cadre de cette saison anniversaire, les 30 ans de l'Océan Nord. Le projet d'Isabelle Pousseur est né du désir des deux comédiennes, Catherine Mestoussis et Magali Pinglot, qui voulaient travailler ensemble. Et lors d'improvisation, Magali Pinglot est venue avec le livre de Florence Aubenas, cette journaliste de Libération qui pendant 6 mois a mené une enquête dans la Normandie, dans le milieu des femmes de ménage qui travaillent dans les ferries qui sont à quai pendant les pauses. Voilà. Et donc c'est le point de départ de ce spectacle. Ce n'est pas une adaptation littérale du texte, c'est vraiment très intéressant le travail qu'a pu faire Isabelle Pousseur au niveau de l'adaptation du roman au passage sur la scène, puisque ça commence par un prologue, ça termine par un épilogue, chacun est dit par Isabelle Pousseur qui est elle-même sur le plateau et qui commence par dire voilà, c'était la crise, c'était il y a une éternité, et qui explique un peu, toujours par l'intermédiaire de Florence Aubenas, l'origine de son projet. Donc il voulait vraiment, en prenant la peau d'un travailleur précaire, ressentir et voir quelles étaient les conditions de ces personnes-là. Donc d'où aussi le titre du spectacle, Les Invisibles, les gens que l'on montre peu, en tout cas, dans la fiction. Et c'est un spectacle qui met en scène ces deux comédiennes extraordinaires, Catherine Mestoussis et Magali Pinglot, qui sont vraiment un duo qui fonctionne très très bien, qui porte tout le spectacle et qui font vraiment très 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 bien ressentir la dureté du travail de femmes d'ouvrage, de femmes de ménage, des conditions dans lesquelles elles doivent travailler, la précarité du travail, leur engagement physique est vraiment mis à rude épreuve pendant toute la durée du spectacle, donc ça fait plus ou moins 1h30. Et nous-mêmes, spectateurs, donc la scénographie reprend un peu, moi c'est un petit bémol, la scénographie du précédent spectacle, 448 Psychose de Sarah Ken. Donc le spectateur, c'est une jauge limitée, donc réservée. On est mis face à face sur la longueur du grand plateau de l'Océan Nord. Et les deux comédiennes occupent vraiment tout le plateau. Elles passent derrière nous, elles sont devant nous, elles courent. Donc on ressent vraiment très très bien jusqu'à la fin du spectacle la dureté et l'épuisement physique que peut ressentir ces personnes au travail. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. L'usure des corps, l'épuisement, le allaitement, c'est quelque chose qui, par la scénographie, par l'intégration du spectateur sur la scène et par le travail des comédiennes, que l'on ressent très bien. Après, ce qui, moi, m'a laissé un petit peu sur ma faim, c'est l'image de ces femmes de ménage, le discours qui est autour de ces femmes de ménage. Donc, moi, j'avais l'impression peut-être que c'est dans le texte, je n'ai pas lu le livre de Florence Aubenas, peut-être que c'est déjà dans le texte, mais qu'on découvrait les conditions de travail de ces femmes de ménage qui est précaire, qui travaillent pour un salaire de misère, qui font des horaires de malade, qui doivent combiner plusieurs travails, c'est souvent des CDD, donc elles ont du mal à joindre les deux bouts. Malgré tout, il y a une vraie solidarité, la solidarité, on la sent, mais c'était un peu le discours général sur les femmes de ménage.
C'est la question, hein, c'est, on sait ou on imagine savoir un peu le monde de la précarité, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas la montrer ou la dire. Et ici, c'est pas un théâtre documentaire, c'est plus par... tu vois, on aurait pu penser à Rosetta, cet essoufflement dans le travail où tu marches ou tu crèves.
Non, mais il y a quand même quelques... cliché, notamment le patron qui drague l'employé sexy, la directrice des ressources humaines qui est tout à fait ignoble et cynique. Donc voilà, pour moi c'était un petit peu, ça frôlait vers le cliché. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment une expérience à vivre.
Oui, c'est plus sensoriel.
C'est un théâtre physique, voilà, c'est pas du théâtre documentaire, c'est vraiment un théâtre physique et qui vaut par la performance des deux comédiennes.
Oui, parce qu'elle lâche pas le plateau, non, elle lâche pas tout. Le spectacle du début à la fin, alors que pendant 1h30, elle court d'un lieu à l'autre, elle pourrait essouffler, avoir un creux dans un spectacle, et pas du tout, justement.
Est-ce que la figure du journaliste qui est présente dans le bouquin, puisqu'elle raconte l'histoire aussi, est aussi présente sur scène ?
Non, à part au début et à la fin, par l'intermédiaire d'Isabelle Pousseur, qui lit les premières pages et les dernières pages du texte. Sinon, non, le parti pris, c'était de distribuer la voix de Florence Aubenas par les comédiennes qui interprètent les différents rôles.
On voit les scènes, comment elles arrivent dans leur casier, changer leurs vêtements. Ça se fait aussi en musique. On voit le timing pour nettoyer. Elles n'en peuvent plus parce qu'elles vont dépasser le temps et courir d'un autre lieu à l'autre. C'est comme en restauration, hein, c'est des shifts. Hein. Ils sont de 11h à 2h ou à 3h et puis ils doivent reprendre de 7 à 22 heures pour des salaires de misère. Donc c'est tout un monde d'invisible qu'on ne veut pas voir, en tout cas. Quand on va manger au resto, on n'imagine pas que le gars derrière, il est en train de... Donc voilà, en tout cas, c'est un beau projet quand même.
Très beau projet.
Les Invisibles est à voir à l'Océan Nord. Qui a les dates ?
C'est jusqu'au 13 octobre, tous les jours, à 20h30, sauf le mercredi.
Je vois les deux regarder le ciel, comme si la date allait tomber du ciel.
Et bien sûr, www.océannord.org.
Sophie, toi tu es partie voir pour nous des illusions, pas les Invisibles, mais
la comédie des illusions, c'est ça. Donc c'est écrit, mis en scène et scénographié par Christine Delmotte, qui est directrice de Théâtre des Martyrs. Comme on peut s'en douter, elle s'intéresse ici aux illusions, pas aux prestidigitateurs, mais on va davantage vers quelque chose de métaphysique. Donc l'idée que le monde est ce qu'on pense qu'il est, tout n'est qu'illusion, voilà. Alors à partir de la notion de jeu, donc le jeu théâtral et le jeu de rôle, c'est important pour la construction de la pièce, elle aborde les enseignements spirituels, la physique quantique, donc la notion du temps, l'intemporalité. Elle évoque Calderon, La vie est un songe, elle évoque David Lynch, Mulholland Drive. Et voilà, donc tout ça pour amener l'idée que effectivement le temps n'existe pas tel qu'on le perçoit généralement, et que le monde n'est qu'une construction mentale faite par notre ego, etc., etc. Donc tous ces thèmes, ils sont développés dans une construction de plusieurs réalités qui coexistent en fait. Donc voilà, des réalités multiples et simultanées. Et on assiste à des allers-retours entre une séance de thérapie, donc une thérapie énergétique ou de Reiki. Mm-hmm. Donc on s'intéresse à l'esprit et à l'énergie, le corps émotionnel, etc. Donc des allers-retours entre cette séance de thérapie énergétique et un cours de cette pratique. Voilà, donc les personnages jouent finalement plusieurs personnages, plusieurs réalités. Et tous ces allers-retours sont ponctués de flashs ou de délires, des cauchemars qui évoquent là aussi David Lynch.
Et est-ce que c'est bien amené ? Parce qu'il y a quelque chose de très concret, hein. Ils sont en thérapie, donc ça pose la pièce dans une histoire. Et justement, jouer sur des flashs, est-ce qu'on le ressent ?
Alors, c'est très bien amené, les transitions sont maîtrisées, hein, que ce soit par la musique, donc on a la petite musique de relaxation, la lumière très douce, et puis hop, on switch, il y a un bruit de bol tibétain, la musique change, la lumière change, les personnages deviennent totalement différents, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais par contre, je trouve qu'il y a un gros souci dans ce spectacle, c'est que c'est beaucoup trop didactique. Donc on a vraiment un cours sur les 7 chakras, sur l'ego, la plénitude, l'élargissement de la conscience. Bon, c'est très intéressant, mais pour les personnes qui sont un peu au fait de toutes ces choses-là...
Et si tout ça était illusion, finalement.
Et si tout ça n'était qu'illusion, et illusion théâtrale aussi, donc voilà...
On parle de comédie, est-ce qu'il y a une dynamique de comédie ?
Pas vraiment, non. Non, c'est vraiment, elle se concentre sur les illusions. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment peut-être une volonté d'éduquer, d'amener le spectateur aux philosophies bouddhistes, parce qu'on sait que Christine Delmotte s'intéresse aussi à tout ce qui est spirituel. Donc voilà, les préceptes de Eckhart Tolle, les maîtres spirituels.
De lâcher prise.
Pourquoi pas. Et alors, bon, la référence à David Lynch, dont elle fait part dans sa lettre d'intention, elle est présente, mais... Je veux dire, c'est tellement gros. David Lynch, Mulholland Drive.
Oh, oui, mais David Lynch, on nous le met
dans tous les spectacles.
Dans
mais
tous
alors
les
ici,
spectacles de tout le monde, il y a une lumière, il y a un effet. Est-ce que
effectivement,
ça,
mais ici, le charme est un peu rompu parce que c'est vraiment trop gros. Donc, on retrouve effectivement la déclaration métaphysique en espagnol, La vie n'est qu'un songe, mon Calderon aussi. On retrouve la passion violente et destructrice entre deux femmes sur fond de lumière rouge, de cauchemar. Donc, c'est une évidence et du coup, c'est pas assez subtil.
Un petit cours de spiritualité pour les
mais ce sont des thèmes passionnants, je trouve. Mmh. C'est vraiment passionnant. Et le développement, donc la construction comme ça de réalités multiples.
Qui est bien maîtrisée.
Alors sur scène, on retrouve Stéphanie Van Vive et Patrick Bruhl. Et Stéphanie Van Vive, elle interprète magnifiquement ces différents personnages. Parce qu'il faut peut-être même être un peu schizophrène, je ne sais pas, pour réussir à interpréter tout ça. Parce qu'on souffre avec le personnage donc, qui assiste à cette thérapie et qui est totalement déprimée, qui répète ses schémas amoureux depuis toujours. On souffre avec elle, elle est en pleine détresse. Et voilà, et... Je trouve qu'elle maîtrise parfaitement cette interprétation. Le seul souci, c'est voilà, le texte, finalement, qui est redondant avec tous les signifiés que Christine Delmotte a voulu mettre. J'aurais préféré être un peu plus bousculée. Je pense qu'elle a eu peur de perdre un peu son public.
La comédie des illusions, voilà. Un spectacle sans façon. Hein, ça, une cour de récréation, ça va, on ne doit pas se casser la tête. Si en plus, on parle de bouddhisme et qu'on doit...
Ben, je pense que c'est aussi l'intérêt, c'est de se casser un peu la tête sur la conscience et la perception qu'on a du monde et que oui, tout n'est qu'illusion. C'est quand même un petit cassage de tête.
Intéressant. C'est jusque quand il n'y a pas d'illusion?
C'est jusqu'à ce 27 octobre et donc toutes les infos sur théâtredesmartyrs.be.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Et on va directement au Varia pour Alaska que Olivier est parti voir pour nous.
Une autre brume.
Voilà. Également une création, la première du Varia, coproduite par les 4 centres dramatiques de la communauté française, donc un projet assez ambitieux.
Ça va tourner donc.
Ça va tourner et avec beaucoup de moyens, donc c'est ce sens. Et autour de ce projet, Patrick Masset, que l'on a pu voir dans un projet de cirque il y a 2 ans, L'Enfant qui. Et ici, il a décidé de faire un projet pluridisciplinaire où il mélange à la fois la musique classique, la musique pop, les circassiens, le théâtre, la manipulation d'objets. Donc, on retrouve un peu tous ces univers dans ce projet-ci, Alaska. Et il voulait travailler sur la mémoire, les problèmes de mémoire. Les gens qui perdent la mémoire, à quoi on peut se raccrocher, quel est le rapport à la réalité. Voilà, c'était un peu l'objectif de ce projet. Et c'est très difficile de raconter ce Alaska parce qu'il n'y a pas d'histoire linéaire. C'est vraiment des bribes comme ça. Ça commence par un personnage qui s'appelle Sébastien, qui a eu un accident de voiture lorsqu'il revenait d'un concert de musique contemporaine. Et suite à cet accident de voiture, il a des problèmes de mémoire. Et on va le retrouver à quelques moments lors de la pièce, avec sa maman aussi, tout à la fin.
C'est logique sur la mémoire d'être éclatée, parce que si c'était chronologique ou linéaire, c'est fragmenté.
Oui, tout à fait. Et donc, il y a d'autres personnages qui ont eu des AVC. Donc, on traite, voilà, c'est les accidents physiques qui provoquent des modifications par rapport à la mémoire. Et donc, il y a ces...
Donc quoi, il y a plusieurs tableaux comme ça et on passe à travers?
Oui, c'est vraiment un paysage, en fait. C'est vraiment un paysage. Donc, il y a une scénographie très, très, très forte avec des cachalots qui sont déposés, un cachalot jaune fluo, un cachalot gris. Il y a un immense cube, en armature métallique qui est posé, un peu comme dans la gravure de Dürer. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça construit un paysage.
C'est Johan Danone qui est plasticien, voilà, qui fait des scénographies.
Donc, une scénographie très forte.
Des beaux objets, mais ça ne me touche pas. C'est ce qu'on m'a dit hier.
Ben écoute, oui, il y a un peu de ça. J'ai eu du mal à rentrer, c'est parce qu'il y a très peu de choses auxquelles se rattacher. C'est vraiment des bribes, les petites histoires, l'histoire de Sébastien, elle est très fugace, donc on a du mal à s'accrocher à ce personnage. Il y a les chansons
Olivier,
lyriques.
Toi qui vas depuis longtemps au théâtre contemporain, c'est pas ça qui va te déboussoler. Qu'il y ait des petites histoires, des petits moments.
Non, mais après, il y a des moments de chansons lyriques en allemand qui sont traduits. Il y a des moments de chansons pop. C'est une composition originale. Jean-Pierre Urbano, voilà. Donc il y a pendant 10 minutes les trois circassiens qui sont sur le plateau, qui jouent un petit peu comme des petits angelots qui font un numéro par rapport à cette grande armature métallique.
Mais est-ce qu'on voyage sur cette mémoire qui est en perdition, on va dire, ou en perte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend le spectateur à ce niveau-là?
Vers la fin, on sent vraiment quelque chose, une émotion qui s'installe. Donc, il y a, comme fil conducteur, il y a une espèce de petite chansonnette, Jonas dans la baleine, que répète sans cesse le Sébastien, puis la maman. Ça pourrait être très énervant. Et finalement, on se laisse emporter. Et je pense qu'il faut vraiment se laisser emporter dans ce voyage tout à fait
c'est
lyrique.
C'est ça qui lie le tout, en fait.
Voilà, c'est le rêve. C'est vraiment un rêve. Et ce qui est aussi intéressant, mais là, il ne va pas très très loin, c'est le rapport au langage. Donc, les personnes qui sont victimes d'accidents cérébraux ou d'accidents de la route. Voilà, quel rapport elles ont aussi par rapport au langage, ce qu'il veut dire, les souvenirs. Il y a un moment donné, bon, dans son texte, il reprend deux extraits du texte de Tom Laloy, Les langues de ma mère, dont on reparlera peut-être. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de matière en amont et qu'il a beaucoup retiré. Et donc, à la fin, voilà, moi, j'étais un petit peu perdu, mais j'ai eu une belle impression d'un beau voyage.
Donc moi, je dirais aller flotter dans Alaska. On ne comprend pas tout, mais il y a le sensoriel aussi.
Tout à fait.
Dans le
Catherine,
spectacle.
Qui n'est pas là, a trouvé ça très onirique et vraiment rentrée dedans, en tout cas.
Mais froid quand même et très onirique. Très onirique. Donc, il faut aimer le froid, évidemment. Alaska.
Bah, Alaska.
flottons, c'est à voir jusque.
Jusqu'au 13 octobre, au Varia, tous les jours à 20h30, sauf le mercredi à 19h30.
Ok. Olivier. Nicolas, toi, tu es parti voir ces jeunes-là hein, dans le cible mouvant de Von Mayenburg.
Et oui, et qui s'installe dans un lieu dont on n'a pas l'habitude, où on n'a pas l'habitude de voir des spectacles, même si on en a déjà vu. C'est au Dexia Art Center, donc à la sortie des galeries royales, que ce texte de Von Mayenburg est pris en charge, on va dire, par Olivier Boudon, qui avait notamment créé Les Exclus de Jelinek au Varia il y a quelques années, il y a quelques saisons, et qui ici, eh bien, investit ce bâtiment vide, un bâtiment avec un puits de lumière central vraiment, c'est un bâtiment vraiment où l'étage est complètement vide, c'est vraiment ça, il n'y a que des pylônes, des structures en béton pour soutenir et évidemment une partie vitrée pour nous installer dans ce texte qui veut nous montrer une escalade de la paranoïa. Alors imaginons un couple, des parents comme ça, qui voient leur fille changer, qui s'étonnent un petit peu de la voir grandir, elle ne rit plus aussi souvent, bref, voilà. Alors eux, elle dit c'est normal, elle grandit, c'est bientôt l'adolescence, etc. Mais pour la société, cette nuée qui les entoure, je dis bien cette nuée, on y reviendra après, ça pourrait poser un peu plus de problèmes parce que ce sont des signes qu'on a déjà vu dans la société et qui avait abouti à des choses peut-être un petit peu plus graves et qui menaçaient notamment la cohésion de la société, de la communauté qui s'était créée. Alors vous entendez bien que cette montée de la paranoïa, on parle ici des enfants, c'est parce qu'on est dans un récit d'anticipation, mais on imagine très bien que l'enfant est un prétexte et qu'il pourrait vraiment être une autre cible mouvante, évidemment, pour expliquer ce thème de la paranoïa et de la construction du discours de l'autre. Autre aussi de l'étranger, de son rapport et de son de comment l'aborder, autre que dans le conflit. Ça, c'est un petit peu difficile dans cette pièce. Alors, Olivier Boudon a créé cette pièce avec 5 acteurs. Et ce qu'il faut dire dès le départ, c'est que Van Meyenburg a créé ce texte de manière collective. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec des acteurs pour essayer de construire ce texte qui a la particularité de ne pas avoir de répliques attribuées à des personnages. Donc, c'est-à-dire, c'est au fil de la lecture, le metteur en scène qui prend en charge ce texte, décide de lui donner un petit peu sa structure. Alors évidemment, il y a des individualités qui sortent comme les parents et qu'il y a deux groupes qui se posent, mais il n'y a pas un nombre défini de personnages. Ici, ils sont 5, ils sont interprétés par Pietro Varasso, Anne Marie Laupe, Laurent Caron, Elena Pérez et j'ai oublié Guillaume Alexandre qui est là également. Et Elena Pérez et Laurent Caron font ces parents un petit peu naïfs qui s'émerveillent parfois aussi de voir leur petite fille grandir, mais leur peur grandit aussi au fur et à mesure que les autres leur fout les jetons tout simplement. Vous savez, moi j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai même vu un gosse qui, même s'il avait souri, il a fait quelque chose de grave après. Et c'est une construction du discours en fait, une escalade. Alors comment est fait la mise en scène? C'est justement autour de ce puits de lumière que s'articule la pièce, avec un voyage constant des comédiens qui n'ont pas vraiment d'espace défini, puisque c'est assez libre comme ça. Un jeu sur les lumières évidemment pour limiter les espaces et les ambiances également, et un travail sonore de Brice Canavo qui est venu habiller de manière sonore ce bâtiment industriel presque, on dirait, ou en tout cas bureaucratique aussi, pour essayer de l'habiter.
Alors que les comédiens sont sonorisés, c'est-à-dire quand ils sont à l'autre bout et derrière, parce qu'on ne les voit pas derrière la baie, on les entend parce que tout près, nous, on a des bas.
Et surtout aussi que le public est sur deux rangées, il y a 80 places, et sur deux rangées tout au long d'un large mur, comme ça, pour pouvoir embrasser la pièce. Donc, ça doit être intéressant aussi, nous, on était au milieu quand on l'a vu, on était ensemble, mais de voir un petit peu quand on est dans un coin ou dans l'autre, comment on approche cette histoire qui voyage vraiment dans cet espace. Alors, je vous parlais d'escalade. Eh bien, justement, c'est peut-être là un petit peu que ça coince, parce qu'on est dans un texte de répétition, et si ceci, et si cela, et peut-être que, ah oui, j'ai vu ceci, je l'ai senti. Bref, il y a une escalade dans le texte, et il manque peut-être dans le jeu des acteurs, justement, cette escalade. Même si, il faut le reconnaître, qu'à la fin, il y a une scène un petit peu plus particulière qui nous plonge dans le noir et qui arrive au climax, on ne dévoilera pas ce qui se passe, mais qui est un petit peu ce sommet, et on a l'impression que c'est une pente à 50 degrés, quoi, hein, qu'on l'a traversée très vite. Cependant, moi j'ai bien aimé aussi l'approche un petit peu naïve, quasi même enfantine, dans la déclamation du texte aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Bon, peut-être que ça ne plaît pas à certains d'autres, mais j'aimais bien cet aspect un petit peu, oui, naïf, cette approche naïve, et puis ce discours qui est fait de naïveté quand on fait monter la paranoïa, elle est là aussi.
Mm-hmm. Il me semble que tout est dit. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? Parce que c'est un texte, on était un peu... moi, j'étais réticente de toute façon. Je me suis dit que j'aurais préféré de le voir dans une autre langue et en allemand, et je suis d'accord avec Olivier qui dit le lendemain, ça fait son effet.
Voilà,
ça se bonifie.
J'ai dû faire un petit effort de concentration pour me laisser porter par le texte, mais il y a une certaine musique dans cette écriture malgré tout. Mon bémol, c'est par rapport à la direction d'acteur, et qui aurait pu amener quelque chose de plus vivant, de plus dynamique, notamment dans cette montée en tension, dans la captation de l'attention du spectateur.
Moi, en français, je n'ai pas aimé le texte. Voilà. Il y a des textes comme ça. Bon, Meyenburg est un très bon auteur. Il avait fait Visage de feu, mais ici un peu. Mais en tout cas, c'est une chouette expérience parce que ce sont des jeunes dans un espace quand même.
Oui, ils n'ont pas eu du. C'était pas facile pour eux de monter ce projet parce qu'ils avaient eu des moyens pour créer le projet ici, mais ils n'avaient pas de lieu. Et donc, Olivier Boudon a dû faire un petit peu des pieds et des mains pour trouver ce lieu qui sera peut-être à l'avenir notre musée des arts contemporains.
C'est à voir
jusqu'au 13 octobre du côté du Dexia Art Center. Alors, pour aller voir les renseignements, il faut aller sur la structure de production qui est la Charge du Rhinocéros, www.chargesdurhinocéros.be.
Je crois qu'on n'a même pas 30 secondes pour vous dire.
Ah si, on a encore quelques minutes.
Alors, qui se lance pour le week-end? Olivier, Nuit Blanche.
Les Nuits Blanches qui en sont à leur 10e édition et qui vont avoir lieu autour du Monde des Arts et de la Place de la Chapelle. Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai pointé les Mireilles aux Brigitines, qui seront aussi visibles ce jeudi et vendredi. C'est un petit groupe de nanas, plus un guitariste qui sont des sosies de Mireille Mathieu et qui interprètent ses plus grands tubes et qui permettent de voyager dans une vision de l'amour un peu stéréotypée, un peu surannée, et voilà, avec une petite critique de la France.
Donc c'est marrant parce qu'on rejoint les illusions. Il y a combien de Mireille sur scène? Une dizaine.
Ouais, une dizaine.
Ça doit être
dizaine,
flippant de voir.
Il y a un côté, c'est toutes des clones, elles sont toutes habillées de la même manière.
La paranoïa de Cible Mouvante aussi, on la retrouve. Moi, je parlerai de Vision de Pierre Mégos. Pierre Mégos joue avec le cinéma, et ce qui est étrange, c'est que lui-même est devant, et il est aussi dans l'écran qu'on voit à l'arrière. Alors on est dans un univers à la Melville, ou un univers trippé et angoissant. On le voit à un moment donné carrément glissé dans le cinéma, dans la toile, où il flippe parce qu'il ouvre des portes, ça se referme, il crie, il se demande ce qui se passe et il est perdu dans un labyrinthe de portes et on sent l'angoisse et en même temps il est là devant nous et il fait juste les gestes pour que le cinéma puisse le filmer en direct. C'est très intéressant, ça s'appelle Vision justement et c'est à voir aussi dans le cadre des Nuits Blanches.
Il y aura aussi Isabelle Batz qui va faire une performance autour du tennis féminin, You Cannot Be Serious. Et là, je pense que c'est à voir parce qu'il
la dernière fois, elle a bazardé sa guitare voilà. Sur des chansons d'amour.
J'ai aussi une petite proposition parce que j'ai pu rencontrer l'artiste. C'est Cécile Lupin qui a investi une aile désaffectée du home des Ursulines et qui a travaillé justement avec les pensionnaires pour travailler sur les univers fantasmagoriques de leur esprit, des pensionnaires qui sont parfois un petit peu désorientés par la vieillesse et d'autres maladies et la maladie également. Et elle habille chaque pièce grâce à l'univers de chacun d'entre eux. Donc c'est une visite au gré de ces pièces où il y aura parfois un personnage qui surgira pendant cette nuit. Et apparemment c'est un projet assez intéressant parce qu'il travaille également avec les gens du cru. Quoi.
C'est beau, c'est la créativité avec les maisons.
Voilà, et ça s'appelle There's No Play Like Home.
Excuse me. Alors on part performance, festival de la performance, Momentum.
Le Momentum Festival, la 6e édition, qui aura lieu sur les quais à Molenbeek, le quai du Hainaut, vendredi et samedi, deux soirées où on pourra découvrir des jeunes performeurs européens. C'est un festival organisé entre autres par Gwendoline Robin et Alice de Vichère, qui sont deux performeuses belges.
Donc Gwendoline, elle s'explose tous les 5 minutes, elle met le feu partout dans des maquettes et tout. Et Alice, elle travaille de Vichère, elle travaille surtout avec la nourriture, avec des liquides et avec... En tout cas, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui se lancent dans leur festival et qui se débrouillent. Hein. C'est la 6e année, je pense. Oui. Et alors, une curiosité du Burs Coburg, hein, Olivier.
Voilà, I Feel Good, c'est un nouveau directeur au Burs et donc une nouvelle programmation thématique. Ici, c'est un week-end d'ouverture de ce focus I Feel Good où la thématique de l'échec est mise en avant. L'échec qui est souvent qui a une origine positive, donc on essaye quelque chose et puis après on échoue. Et donc voilà, c'est une positivisation de l'échec. Et lors de ce week-end, on pourra voir des performances, une de Michel Young, Make an Agreement, qui nous proposera de faire un contrat par rapport à une proposition artistique. Il y aura les Russes allemands Dmitri Paranyuskin et Diego Aguilo et The Humping Pact. Où là, ce sera des cornues. Ouais, j'ai pas en dire plus.
Il sourit de voir des cornues. I feel good.
Et allez. Puis les Suisses de Laura Kalos et Martin Schick avec une vraie performance sur la société de consommation.
Ainsi se termine la conspiration des planches, nom de Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme matière pour l'instant au théâtre. Ne restez pas chez vous, sortez Les Invisibles à l'Océan Nord, Cible Mouvante dans un espace du Dexia Art Center, Alaska, œuvre abstraite, la comédie d'Elmotte Christine au Martyr, la comédie des illusions, et alors trois festivals rien que pour ce week-end, je crois qu'on frôle l'overdose, I Feel Good, ça dure quand même 2 mois, ça s'appelle une cellule thématique sur l'échec, ça c'est de la résistance, Nuit Blanche et évidemment, il y a aussi du théâtre, pas que de la musique. Momentum, performance sur les quais à Molenbeek. Et alors apparemment, à Recyclard, on danse toute la nuit, nous dit Olivier.
Pour la nuit blanche.
À la semaine prochaine, merci à tout le monde.
Et toutes les références de cette émission des spectacles dont on a parlé sur www.radiocampus.be, le podcast sur demandezleprogramme.be. Belle semaine à vous. La constelación.